Nous allons faire plusieurs lectures. Je voudrais bien sûr que vous puissiez les prendre avec moi. Prenons le temps de les faire. Je sais que parfois certains ont du mal à trouver, mais prenons le temps, peut-être même notez-les. Peut-être que toute la semaine, vous pourrez méditer ces textes. Je suis persuadé que cela nous serait d'un grand profit si ces textes que nous allons partager ce matin, nous prenions l'habitude les jours qui suivent, de les méditer pour mieux comprendre ce qui a été apporté pendant la prédication. Je vous encourage vraiment à les noter. Matthieu chapitre 10, au verset 22, il y a un texte. Vous savez, tout ce qui a été dit est intelligent et utile surtout. Il y a une présentation du combat que l'on mène de temps à autre. Vous le savez tous, à partir du moment où vous êtes passés dans le royaume de la lumière, nous avons compris qu'il y avait un combat spirituel. Même si nous sommes dans le repos, il y a un combat. Matthieu chapitre 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous avons là une indication qu'il faudra être vigilant jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mes frères et sœurs. Dans l'Épître aux Hébreux, cette pensée est reprise. On va lire le verset 32, qui nous rappelle justement, oui, que le chemin peut être rocailleux, comme on l'a chanté. Hébreux 10, verset 32. Il y a des textes qu'on n'utilise pas souvent, mais ça vaut quand même la peine de réaliser qu'il y a des jours très difficiles. Est-ce que vous l'avez observé, ça? Hébreux 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu, je ne sais pas comment c'est écrit dans votre Bible, un grand combat. Au milieu des souffrances, on y reviendra tout à l'heure, mais quand même, c'est bien de le réaliser. Dieu veut que l'on sache qu'il y aura de grands combats. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Un petit peu plus loin, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, le Seigneur s'adresse à une église, et voilà ce qu'il lui dit. On va lire deux versets, le verset 8 et le verset 10. Apocalypse, chapitre 3, verset 8 et verset 10. Je le répète, je vous encourage à noter ces textes, parce que je suis sûr qu'ils vous seront d'un grand profit. Bien souvent, le diable nous a éparpillés dans nos pensées, parce que nous n'avons pas su rendre nos pensées captives avec des paroles aussi importantes. Apocalypse chapitre 3, verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Je le relis. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Amen. Donc ces textes nous parlent qu'il faut persévérer. Dans le psaume 78, d'ailleurs j'ai demandé qu'il soit affiché, parce que c'est un verset qu'on n'utilise pas, on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Psaume 78, verset 5, c'est le verset 9 qui nous servira de thème à la prédication. Mais regardez le contexte dans lequel cette affaire nous est présentée. Psaume 78, verset 5, il nous parle d'un témoignage et que notre responsabilité, c'est que nos enfants et même nos petits-enfants connaissent la grâce de Dieu. Vous êtes tous d'accord pour que vos enfants et vos petits-enfants connaissent la grâce de Dieu ? Psaume 78, verset 5, il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Vous voyez, c'est bien. J'espère que vous le faites. pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas, ça c'est l'explication du problème, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Et regardez le constat, les fils d'Éphraïm, armés, les fils d'Éphraïm, c'est des chrétiens, c'était les fils d'Israël, c'est, pour nous c'est les chrétiens, les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Nous l'avons affiché. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu le thème de ma prédication. Pourquoi les chrétiens qui devraient être, qui sont armés, qui ont toutes les armes, qui peuvent être exercés au combat, tournent le dos le jour du combat ? C'est un gros problème. C'est un gros problème dans le corps de Christ, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le chrétien, on l'a vu en introduction, il doit persévérer jusqu'à la fin. Cette semaine, je lisais dans les chroniques, il y a un roi qui s'appelait Asa, si je ne me trompe. Il a régné 39 ans et pendant 36 ans, il a été mais vraiment tip-top. Il a marché avec Dieu, vous regardez son témoignage, son comportement, ses réactions. Il a marché avec Dieu la 36e année, on ne sait pas pourquoi, enfin, sans doute. Mais il a décidé de ne plus marcher avec Dieu et il est mort dans la misère, 3 ans après. Et même quand il a été malade, il n'a pas consulté les médecins, il est resté dans ce travers. Pourquoi ? Alors, bien sûr que tout ce qu'on lit, tout ce que Jésus a dit, tout ce qui est écrit dans la Bible, mes frères et sœurs, il faut le comprendre. Tout ce qui est écrit, ça doit nous aider à persévérer. Vous êtes d'accord? Dès qu'on lit la Bible, il y a un enseignement, une prophétie, un avertissement, une promesse, quel que soit le thème qui est présenté, tout est fait pour nous aider à être debout jusqu'à la fin. Vous savez, dans nos églises, je pense pas ici, mais à toutes les églises, combien de gens ce matin devraient être dans la maison de Dieu et n'y sont pas? Combien? L'ennemi, lui, il sait certaines choses. Il connaît bien la parole. Vous croyez? Croyez-moi, le peu qui nous est présenté, croyez-moi, il connaît la parole et il sait comment décourager les chrétiens. Il sait comment. Le mot d'ordre de l'ennemi, c'est de nous empêcher de persévérer. Aller à l'église, c'est une chose. Aller à l'église le dimanche, c'est une chose. Mais persévérer jusqu'à la fin, c'en est une autre. Ce que l'ennemi veut, il veut nous perdre. Et le psaume 78, j'ai pris celui-là parce qu'il est assez fort. Mais mes frères et sœurs, ça doit nous faire réfléchir. Comment des hommes exercés au combat, en plus si vous prenez plusieurs versions, vous voyez que le Seigneur les présente comme des hommes capables, doués, vraiment doués. Eh bien, ils n'ont pas voulu combattre. Ils n'ont pas voulu combattre. Et en ne combattant pas, mes frères et sœurs, il y a des drames terribles qui se passent dans le royaume de Dieu. C'est qu'en ne combattant pas, je vais vous l'expliquer, en ne combattant pas, on n'a pas la victoire personnellement, mais on n'amène pas la victoire dans la vie des autres, dans la vie de nos enfants. Et je crois que s'il y a une chose qui est certaine, Dieu veut bénir nos enfants. Nos familles, nos enfants, ce ne sont pas que les nôtres, ce sont tous les jeunes de l'Église qui représentent nos enfants. Paul disait à Timothée, toi donc, mon enfant, à partir du moment où quelqu'un a 20 ans, 25 ans de moins, ça devient comme un de nos enfants dans l'Église, parce que nous sommes une même famille. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas été sérieux, ils ne sont pas sérieux. Et au milieu de nous, il y en a certainement plusieurs. Je ne vois pas pourquoi j'aurais reçu cette pensée si c'est pour des gens qui n'étaient pas là. Mes frères et sœurs, ils ont tourné le dos le jour du combat. Il y a un combat, vous le savez. Si quelqu'un veut se lever et me dire, moi non, monsieur Gaud, depuis que je suis chrétien, j'ai jamais eu de combat, ben levez-vous, votre témoignage nous intéresse vraiment. Et nous aimerions savoir comment vous avez fait. Lorsque nous ne combattons pas ce combat qui doit être mené, je répète, dans le repos, Beaucoup de chrétiens ont abandonné le combat parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans le repos. C'est la raison pour laquelle ils se sont découragés. On pourrait voir, c'est pas ce qu'on va faire exactement, mais enfin, on pourrait voir toutes les causes de l'abandon de ce combat. C'est sûr qu'un chrétien qui n'a pas la paix, parce que dans le royaume de Dieu, pour combattre le bon combat, il vaut mieux être en paix. Et bien des chrétiens ont commis des grosses erreurs parce qu'ils ont voulu combattre le combat spirituel sans avoir reçu cette paix que Dieu donne à ceux qui marchent avec lui. Vous avez lu la Bible. Vous avez lu la Bible tous? Vous l'avez lu? Vous avez lu. Donc vous savez que l'adversaire a souvent gagné. Est-ce qu'on le voit des fois? Même ils n'étaient pas nombreux. Et ils ont gagné. Alors que je peux vous dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais la désobéissance a fait que l'adversaire, même s'il n'était pas nombreux, a souvent gagné. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient combattre ont tourné le dos le jour du combat. Et ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir parce que, croyez-moi, plus le temps passe, plus l'apostasie s'installe, et croyez-moi, plus les chrétiens se découragent. Alors que ça devrait être l'inverse. Nous savons que bientôt Jésus va revenir et il vaudrait mieux qu'il nous trouve debout lorsqu'il va revenir. Oui, il y a un combat. Il peut y avoir même un grand combat. C'est pour ça que je vous ai lu le verset d'Hébreux chapitre 10. Vous avez soutenu un grand combat. Il y a des chrétiens qui s'imaginent qu'il n'y a qu'eux qui combattent. Il y a des chrétiens qui disent « Oh, moi, je n'ai pas de bol, j'ai des combats. Je suis persuadé que tel frère n'en a jamais. » Eh bien, allez le voir. Les anciens, peut-être les anciens, monsieur Olé, monsieur Blanc, monsieur de Dieu, je suis sûr qu'ils n'ont jamais eu de combat. Allez les voir, ils vont vous expliquer. Non, mais il y a des gens qui s'imaginent que leur cas est particulier. Mes frères et mes sœurs, à partir du moment où nous avons été éclairés, que nous sommes rentrés dans le domaine de la lumière, il y a eu un combat spirituel. Même s'il y a, et ce combat, je voudrais vous rassurer, c'est jusqu'à la fin. Si vous lisez la Bible de l'Apocalypse, à la Genèse, ou plutôt de la Genèse à l'Apocalypse, vous découvrez ce combat, parce que je pensais à autre chose en vous disant. Mais dès le début, il y a un combat spirituel. Tout le monde est concerné par ce combat, et je ne voudrais pas que quelqu'un se sclérose et s'amenuise, parce qu'il se dit, oh non, il n'y a que moi qui vis ça, parce que j'ai trop de tentations, toutes ces tentations au niveau moral, au niveau sexuel, toutes ces complications au niveau du travail, au niveau de la famille. Non, je suis sûr qu'il n'y a que moi, j'ose même pas en parler. Écoutez, je vous rassure, on est tous logés à la même enseigne, on a tous les mêmes combats. Même Jésus, qui était saint, fidèle, a été tenté comme nous en toute chose, bien sûr, sans commettre le péché. Non, nous ne sommes pas seuls à combattre. Tout le monde est concerné par ce combat. Et nous ne devons pas nous laisser piéger par la dureté, l'âpreté de ce combat. Nous devons combattre le bon combat. C'est quelque chose de sérieux. Jésus nous a avertis. Vous avez vu dans les évangiles, c'est le début de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous aurez des tribulations. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Vous aurez, et c'est ça, il a été honnête à fond, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ailleurs, il va dire à Pierre et aux apôtres, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il aurait pu empêcher cette affaire. Est-ce que Jésus aurait pu empêcher que Pierre et les apôtres soient criblés? Oui, il le savait. Il aurait pu dire, écoute Pierre, les apôtres, vous devriez être criblé. Le Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais moi j'ai prié pour que ça vous arrive pas. Et ça serait pas arrivé, croyez-moi. Mais ils en avaient besoin. Pierre avait de l'orgueil dans son cœur. Enfin, de l'orgueil, pas de l'orgueil. Parce que Dieu bénit pas les orgueilleux. Il avait de la suffisance. Il avait confiance en lui. Il fallait pas qu'il ait confiance en lui. Il fallait qu'il soit délivré de ça. N'ayez jamais confiance en vous. Ayez confiance en Dieu. Parce que si vous avez confiance qu'en vous, vous risquez de pas avoir confiance en vous souvent d'ailleurs. Satan vous a réclamé. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'était aux apôtres. Écoutez-moi, ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous. Si Satan a réclamé Pierre, il peut te réclamer pour te cribler, pour t'éprouver, pour que tu traverses des moments difficiles. C'est important, mes frères et sœurs. Satan peut nous réclamer. Il peut y avoir des épreuves que nous avons du mal à accepter. Il n'y a pas des épreuves pour qui ont été plus difficiles pour vous que dans un domaine ou dans un autre, hein. Il y a des gens, quand ils sont malades, c'est quelque chose d'insupportable. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils ont tellement été guéris que ça les fait rire presque. Vous comprenez, je caricature. Mais ça dépend le nombre d'épreuves qu'on a vécues dans tel ou tel domaine. Oui, le combat, il existe. Vous avez soutenu un grand combat. Le combat, il a commencé au départ, regardez, et dans l'Apocalypse, il dure. Oui, il y a plusieurs combats. Alors c'est peut-être bien de le dire. Il y a plusieurs combats dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Il y a des combats pour le gagner des âmes. Est-ce que l'évangélisation, c'est un combat ? Oui, c'est un combat. Ça doit être un bon combat, de gagner des âmes, d'avoir ce fardeau, de dire, tiens, notre frère Monsieur Puette imprime tout le temps de bons prospectus pour l'évangélisation. Est-ce que ça vous intéresse, ces prospectus, de les glisser dans un évangile ou dans un Nouveau Testament pour les distribuer à des gens qui ont besoin de la parole ? Cette semaine, j'ai mon voisin avec qui je m'entendais bien, à Groyer, qui est décédé. Mais quelle joie le jour où j'ai pu lui donner une Bible et lui demander si je pouvais prier avec lui. Il l'a fait, je ne sais pas s'il est au ciel ou pas, mais je sais une chose, c'est qu'il y a un combat dans l'évangélisation. Il y a un combat dans l'évangélisation, ce n'est pas la prédication de ce matin, mais c'est pour vous encourager à savoir comment nous devons combattre ce bon combat pour gagner des âmes. Et puis il y a un combat pour rester fidèle, un combat pour aller jusqu'au bout. Vous savez, c'est le devoir de moi, d'un pasteur, de nous aider à comprendre qu'il y a plusieurs sortes de combats, il y a plusieurs sortes de mauvaises journées, il y a plusieurs sortes de difficultés. Mais l'ennemi, il fera tout pour nous décourager dans un combat ou dans l'autre. Mais s'il y a bien quelque chose qui le préoccupe, c'est de nous décourager pour que nous ne persévérions pas jusqu'au bout. Ça, c'est la volonté de l'ennemi. Et pourtant, mes frères et sœurs, combien, quand on chantait tout à l'heure « Quel ami fidèle et tendre », je pensais à ma prédication, vous comprenez bien que souvent je recoupe certaines pensées. Nous avons un ami fidèle et tendre qui ne nous a pas laissés démunis. Il nous a donné toutes les armes, vous connaissez Éphésiens chapitre 6. Le Seigneur nous a dotés de toutes les armes dont on a besoin pour combattre ce grand combat. Vous comprenez bien que Dieu ne va pas nous laisser comme ça, démunis, ce n'est pas possible. Si vous pensez ça, c'est que vraiment il y a un problème d'aveuglement dans votre vie. Le Seigneur, quand il a tout accompli au calvaire, il a tout accompli pour que nous ayons les armes suffisantes pour ne pas tourner le dos le jour du combat. Oui, dès notre conversion, on l'a lu, après avoir été éclairé, ça veut dire après votre conversion. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, parce qu'il y en a de la souffrance. Quand une personne se convertit et qu'elle est la seule chrétienne dans la famille, plusieurs l'ont vécu. Quand vous êtes le seul chrétien dans une famille, vous comprenez quand Jésus dit « Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée ». Pourquoi ? Parce que vous êtes dans la lumière, les autres membres de la famille sont dans les ténèbres, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Mais vous comprenez bien qu'il y a un combat, une confrontation entre la lumière et les ténèbres. Après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat. Moi j'ai entendu des évangélistes qui disaient « si vous vous convertissez, si vous donnez votre cœur à Jésus, vous serez heureux ». Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est écrit. Il est écrit « si vous vous convertissez, vous serez sauvés ». Il y a de la joie, il y a la joie du salut. Est-ce que vous êtes heureux d'être sauvé ? C'est la plus grande bénédiction. Mais ça n'annule pas le fait que la joie du salut, la grâce de Dieu, ce bonheur parfait, etc., etc., on ne peut même pas le décrire comme le disait si bien M. Dubois dans sa louange ce matin, qu'il n'y a pas de mots dans le vocabulaire. Moi j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé non plus. Il n'y a pas de mots pour exprimer la reconnaissance que nous pouvons avoir envers le Seigneur. Mais une chose est certaine, il y a des combat. Après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat. Alors j'aimerais vous parler peut-être un peu du témoignage de l'apôtre Paul. Lisez avec moi, s'il vous plaît, dans 2 Timothée. Notez ces textes, s'il vous plaît. C'est important, je sais que c'est important, parce que moi j'ai fait des progrès, je le sais. Les premiers mois de ma conversion, comme je n'avais jamais ouvert ma Bible, je n'avais jamais lu la Bible, je notais tous les versets que le pasteur citait et je me suis imposé de les apprendre. Et je peux vous dire que j'ai gagné du temps pour mon appel, croyez-moi, vraiment. Dans 2 Timothée au chapitre 4, Paul parle justement de... Il est arrivé à la fin de sa vie, il sait qu'il va partir, mais il explique ce qu'il a vécu. C'est important de savoir ce que des hommes comme l'apôtre Paul ont vécu. Alors ça se résume avec ce verset, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Il sait qu'il va partir, il est en paix. Il est en paix, mais je peux vous dire qu'il persévère, on le voit au verset 13, croyez-moi. 2 Timothée chapitre 4, verset 7, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai combattu le bon combat. ça doit être un bon combat. Si on n'est pas armé, c'est un combat pénible. Il y a des chrétiens, ils sont tout le temps dans la galère parce qu'ils ne sont pas armés comme un soldat qui serait sur le champ de bataille en survêtement ou en caleçon. Vous diriez, mais ça ne va pas durer longtemps. Il y a des chrétiens, ils sont comme ça, en caleçon, sur le champ de bataille, avec une fleur à la bouche. Oui. C'est difficile. De Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et on voit que même si c'est qu'il va mourir, regardez au verset 13, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas. » Il avait oublié son manteau. Et les livres, surtout les parchemins, qu'est-ce qu'il veut? Il veut surtout qu'on lui amène la Bible, les rouleaux de la parole de Dieu. Il savait qu'il allait mourir, mais en tous les cas, une chose était sûre, il voulait continuer à méditer la parole de Dieu jusqu'à la fin. J'ai combattu le bon combat. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que toute sa vie, cet homme, même si c'est l'apôtre Paul, eh bien, il a eu des moments difficiles, que l'ennemi a cherché à le faire tomber, qu'il a dû trébucher. Enfin, vous connaissez la vie de l'apôtre Paul. Et il a persévéré. Ça vaut la peine de persévérer. Croyez-moi, ça vaut la peine de réfléchir. Regardez ce qu'il dit à un jeune serviteur, 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, vous voyez au verset 12, là il parle à un jeune pasteur, mais c'est ça, il parle de ses combats, il encourage les autres, les jeunes serviteurs, les jeunes chrétiens. 1 Timothée chapitre 6, verset 12, vous voyez, qu'est-ce qu'il lui demande? C'est intéressant, je le dis aux stagiaires, moi, réfléchissez dans les deux Timothées, 1 et 2 Timothées, les mêmes choses qui sont écrites, elles sont importantes. 1 Timothée chapitre 6, verset 12, « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Voyez, combat, le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Il y a un combat personnel, mais j'encourage également les autres à combattre le bon combat. C'est mon devoir ce matin de vous dire la même chose. Je dois combattre le bon combat. Je dois vous demander de m'aider à combattre pour moi. Mais vous devez vous aussi combattre le bon combat. Un petit peu avant, dans l'épître aux Colossiens, regardez ce que Paul dit. C'est important, mes frères et sœurs, parce que les gens tournent le dos au combat parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était ce bon combat. Colossiens chapitre 2, regardez verset 1er. C'est important, mes frères et sœurs, c'est très important, je vous assure que c'est important. Colossiens chapitre 2, verset 1er. Il en parle, voyez, qu'est-ce qu'il dit? Je veux, voyez, il veut, c'est la volonté de Dieu. En effet, que vous sachiez, voyez, rien que ça, je veux que vous sachiez. Alors quoi? Combien est grand le combat que je soutiens pour vous? Et pour tous ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Il faisait allusion à des églises où il n'avait pas encore été. Pourquoi? Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Vous voyez quand on combat? Pourquoi on combat? Pour que les frères et les sœurs soient remplis de consolation. Pourquoi encore? Qu'ils soient unis dans l'amour. Est-ce que c'est important dans une église qu'on soit unis? Est-ce que vous pouvez vraiment vous tourner vers votre frère, votre sœur, et lui dire, je suis uni avec toi, mon frère? Est-ce que vous pouvez? Non, mais sérieusement, est-ce que vous pouvez dire, je suis uni avec toi? Je suis uni avec vous? Je suis uni, mes frères et sœurs. Un chrétien, il combat. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Ce n'est pas de la théorie. C'est la vie. Paul combat pour lui. Il combat pour les autres. Est-ce que vous priez que pour vous? C'est pas pour vous mettre mal à l'aise que je vous dis ça. Mais sincèrement, comme je vous le disais dimanche dernier, si on examinait nos dernières heures de prière, elles sont plus tournées vers nous, ou nous petits, ou est-ce qu'elles sont tournées vers les autres? C'est pas une question piège, c'est pour nous aider à faire des progrès. Paul prie pour lui, il prie pour les autres. Un grand combat, je veux prier pour mes frères, pour ceux que je connais. Je connais l'église de Sainte-Agne, je connais l'église des Minimes, je connais quelques chrétiens à Toulouse-Ouest, je connais peut-être moins les chrétiens d'Aurillac, mais j'ai appris que le pasteur de Sarlat a le cancer. Tiens, je veux prier pour les frères et sœurs de cancer. Quand j'entends le frère Sinarinzi prier, je sais qu'au Burundi, on n'en parle pas beaucoup à la télé, mais je peux vous dire qu'au Burundi, ça va très très mal. C'est vrai ou non, monsieur? Tiens, je vais le noter sur un papier. Je vais prier pour mes frères et sœurs, je ne verrai jamais leur visage. Mais mes frères et sœurs, il y a une perception intelligente de cette affaire. Les fils d'Éphraïm se sont fait avoir, ils étaient armés. Je ne sais pas comment ça se passera pour eux quand ils passeront devant Dieu. Mais Dieu pourrait nous faire le même reproche. Surtout que l'aveuglement est diabolique, dans le sens où nous devons comprendre que si Dieu nous permet de combattre, je peux vous dire qu'il nous a tout donné. Quelqu'un l'a dit ce matin dans la prière. Seigneur, Madame, nous t'avons accepté. Vous vous rappelez de votre prière, Madame Loupiac? Non. Seigneur, tu nous as tout donné. Vous le croyez, ça? Eh oui. Paul combattait pour lui. Combattez pour vous. Combattez pour vous. Vous entendez, frères et sœurs? Combattez pour vous. Je ne parle pas là de l'évangélisation. Je parle de votre victoire personnelle. Seigneur, je vais en faire une affaire personnelle. Je veux être fort. Pourquoi? Parce que la Bible dit, fortifiez-vous. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas du m'as-tu vu. Non, Seigneur, c'est ma responsabilité d'être courageux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Et si vous n'avez pas de courage, ça peut arriver un moment de blues. Mais en fait, je fais quand même la différence entre 5 minutes de cafard ou une journée difficile et puis des gens qui, depuis des années, sont toujours découragés et découragent les autres. Ça, c'est grave, c'est une responsabilité. Qu'est-ce que vous diriez si un dimanche j'arrive... Tiens donc, qu'est-ce que vous diriez si un dimanche j'arrivais découragé avec une prédication qui ne tienne pas debout? Qu'est-ce que vous diriez? Allez, répondez-moi, je n'écoute pas trop. Qu'est-ce que vous diriez? Bon, il a un problème. Bon, une prédication. Est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce que ça pourrait arriver? Bien sûr, ça peut arriver. Ça a dû arriver. Vous ne m'avez pas dit, vous êtes gentil. Mais imaginez que ça dure pendant 6 mois. Qu'est-ce que vous diriez au bout de 6 mois? Vous direz, il y a un gros problème. Mais mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. Dans une église, on doit veiller les uns sur les autres. Oui ou non? On doit avoir cette honnêteté, cette sincérité. Et Paul l'exprime, c'est super bien expliqué. J'ai combattu. Il arrive à la fin de sa vie, que ce soit une de nos dernières paroles, j'ai bien combattu. Combat le bon combat, et puis je combats pour vous. Et pourtant, quand vous lisez l'Épître aux Colossiens, je tiens à vous dire que Saul de Tarse, il a changé quand même. Saul de Tarse, il est en prison. Regardez ce qu'il dit pour ça, juste quand même pour qu'on sache qu'il est en prison. Chapitre 4, verset 18. Heureusement qu'on le sait avec ça. Colossiens 4, verset 18, je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Moi je pense qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens et même beaucoup de pasteurs auraient fait toute une lettre pour que les chrétiens prient pour que je sorte de prison. Oui ou non? Lui, il est dans la victoire. Il n'est pas assis dans une géole à Colosse, à Rome, parce qu'il a écrit de Rome. Il est assis dans les lieux célestes. Et il rend grâce, il lisait cette épître, ça regorge de cette joie parce qu'il est dans la volonté de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs. Est-ce que vous voulez combattre pour même ceux que vous ne connaissez pas? Vous pouvez avoir à cœur, monsieur Puet, l'autre jour, nous a donné cette liste. Moi, je trouve que c'est excellent. Vous l'avez prise? Avec les pays persécutés, les pays vraiment persécutés. Moi, je crois que ça doit plaire au Seigneur quand on, après avoir prié pour soi, pour ses enfants, que Dieu protège nos âmes. Et il faut le faire en plus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais mes frères et sœurs, vous ne croyez pas que ça plaît à Dieu quand vous dites, tiens, mais oula, dans tel pays au Yémen, les chrétiens, ils sont persécutés. En Syrie, j'ai vu les informations. Toutes les églises ont été détruites. Vous ne croyez pas que ça... Ça vaut la peine de prier pour les chrétiens de Damas. Ah, mais est-ce qu'ils sont évangéliques? Est-ce qu'ils sont... Je crois que là, à un moment donné, je crois qu'on peut prier pour tous les chrétiens. Il faut quand même avoir un peu de bon sens. Seigneur, bénis les chrétiens en Syrie. Vous allez me dire, oui, mais c'est une parole. Non, ce n'est pas une parole. C'est une prière. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'ennemi, il sait ce qu'il faut. Il sait ce qu'il veut. Je ne sais pas comment ça marche. Il y a des textes bibliques qui nous laissent supposer comment ça fonctionne. On le voit quand Daniel cherchait vraiment la volonté de Dieu. Il a prié pendant 3 semaines et il nous a dit que l'ange Gabriel il a été retardé par des démons pour pouvoir venir lui parler. Vous connaissez cette affaire. Donc quand vous lisez la Bible, vous en déduisez qu'il y a des choses qui se passent. Et que l'ennemi... fait tout, je ne sais pas comment il donne des ordres à ses sbires, à ses démons, je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est sûr que c'est le commandant en chef de l'armée des ténèbres. Et croyez-moi que des ordres, il doit en donner pour essayer de nous empêcher de prier. Je vous avais donné ce témoignage il y a quelques mois de ça, où un chrétien qui était ici à l'époque, il était ici, il me disait, il était à 1 an de la retraite, il me disait continuellement, « Monsieur Hugo, qu'est-ce que j'anguille la retraite? Quand je serai à la retraite, qu'est-ce que j'aurai du temps pour prier? Qu'est-ce que j'aurai du temps pour chercher Dieu ?» Et il le pensait vraiment. Et bien sûr, il a pris la retraite, et 6 mois après, il m'a vu avec un grand sourire, il m'a dit, « Monsieur Hugo, vous ne le croirez pas, j'ai encore moins de temps qu'avant. » Moi, ça ne m'a pas fait rire quand même. Il avait 9 heures de plus par jour. Et l'ennemi avait réussi à l'empêcher de trouver un quart d'heure par jour pour prier. Je sais pas s'il faut rire. Mais ça, c'est des ordres qui doivent venir de l'enfer. Empêcher les chrétiens de prier. Ça m'étonnerait que je me trompe. Empêchez-les de prier. Et quand ils prient, empêchez-les de croire à leurs prières. Quand vous priez pour les gens de Syrie, vous ne les connaissez pas, vous ne savez peut-être même pas où c'est sur la carte, ce n'est pas trop grave. Mais l'ennemi, il doit tout faire pour que le doute s'installe dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Quand vous priez de tout votre cœur pour les chrétiens de la Syrie, le Seigneur, il agit dans les chrétiens, chez les chrétiens en Syrie. C'est comme ça. C'est la vérité. Et il vous faut croire dans vos prières. Il vous faut pas laisser l'ennemi vous décourager. Franchement, ça vous arrive pas des fois d'être découragé pour rien? Ou est-ce que ça arrive qu'à moi? Répondez-moi. Est-ce que ça vous arrive pas des fois d'être découragé pour rien? Alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Oui ou non? Ah bon? Ça me rassure aussi. Mais soyons honnêtes, il y a des fois quand même on a tout, on a ce qu'il faut, le congélateur est plein, là le frigo est plein, et on a le chauffage, et on a tout ce qu'il faut, et on a la santé, et pourtant, il y a des trucs qui nous affligent. Vous vous rendez compte alors que c'est quand même une grâce d'avoir toutes ces choses. Parce que l'ennemi veut nous décourager. Je ne sais pas comment ça marche, je le répète, mais en enfer, je pense que cet ordre, il doit courir dans tous les sens, décourager les chrétiens. Découragez-les. Aveuglez-les par les mauvais témoignages. Parce que, hélas, en plus, dans les églises, est-ce que ça arrive des chrétiens rendent de mauvais témoignages? Il y a des chrétiens qui ont décroché en voyant des frères, des sœurs qui rendent un mauvais témoignage. Oui ou non? Vous n'en connaissez pas des chrétiens qui ont découragé? Ça, c'est vrai que c'est dommage. Alors, il faut nuancer quand même. Mais il y a vraiment des mauvais témoignages. On peut se tromper, dire « je te demande pardon, j'ai mal agi, j'ai dit ça, je le regrette ». Ça, ce n'est pas un mauvais témoignage. Faisons attention. Mais l'ennemi, je pense qu'il a dû utiliser à des moments de faiblesse pour décourager des gens, des vrais chrétiens qui ont arrêté d'aller à l'église, qui ont arrêté de prier. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait donné des ordres, découragez-les, distrayez-les. Amusez-les. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que vous croyez que certains plaisirs qui sont sains, pourraient être utilisés par l'ennemi pour nous empêcher de prier? Vous savez, ce verset, il faut quand même être sérieux. On est là, dans la maison de Dieu, on demande à Dieu, parle, inspire ton serviteur, bénis le pasteur qui va prêcher ce matin, etc., etc., etc. Et c'est bien. Mais si c'est le cas, imaginons que vraiment le Saint-Esprit m'ait inspiré pour nous interpeller à chacun et dire, mais c'est vrai, est-ce que je ne ferai pas partie de ce groupe de chrétiens qui se laissent distraire par des choses bonnes, j'espère, ou par des choses mauvaises? Là, c'est beaucoup plus grave parce que ça nous amène dans un chemin de non-sainteté. Mais vous croyez que dans l'enfer, les démons peuvent avoir reçu cet ordre? Amusez-les. Amusez-les. Avec toutes sortes de distractions qu'il n'est pas le temps de prier. Empêchez-les d'aller à la prière. Moi, ça, c'est un sujet que j'ai tellement vu de pasteurs utiliser cette affaire de présence aux réunions pour culpabiliser les chrétiens que je ne m'autoriserai pas à le faire. J'ai tellement vu des pasteurs qui culpabilisaient les chrétiens, disant « si vous ne venez pas à toutes les réunions, vous n'êtes pas spirituel ». Moi, je ne crois pas qu'elle est là, la spiritualité. Il faut s'encourager à la réunion de prière, c'est sûr. Mais peut-être que si on priait vraiment chez soi, tout se réglerait. Vous ne croyez pas? Que si vraiment on se disait « mais c'est clair ». Je dois absolument devenir cet homme comme Épaphras, on est dans les Colossiens. Regardez le témoignage que Paul donne d'un homme qui s'appelle Épaphras. Regardez cet homme. Qu'est-ce qui est dit de cet homme? Est-ce que vous imaginez, quand vous passerez devant Dieu, que Dieu parle de vous de cette façon? Imaginez un instant. Ça peut vous encourager. Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Alors pourquoi? Afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, disposés, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Alors vous pouvez dire Amen. Des hommes dans l'Église qui sont conscients de ce combat. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors est-ce que ça veut dire qu'il était 24 heures sur 24 à genoux dans sa chambre? Bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'il avait un état d'esprit, quoi que ce soit qu'il faisait, quoi que ce soit qui le préoccupait, son esprit était en prière. Et il disait, Seigneur, je veux prier, Seigneur, je te prie pour les chrétiens de Colosse, je te prie pour les chrétiens de Laodicée, je te prie pour les... Seigneur, je veux qu'ils tiennent bon, je veux que les chrétiens tiennent bon. Si vous êtes jeune, Seigneur, je te prie pour que mes parents y tiennent bon. Vous êtes d'accord, les jeunes? Vous n'avez pas vu souvent des parents régresser? Je discutais avec un jeune dernièrement qui me disait, le jour où mon père chrétien a basculé dans l'homosexualité, je me suis effondré. Et je crois qu'on peut prier les uns pour les autres. Ça plaît à Dieu. Mes frères et sœurs, je vous assure, il y a des choses qui plaisent à Dieu. On n'ose pas en parler parfois au niveau de la prière, au niveau de l'argent, c'est encore plus délicat. Mais vous ne vous rendez pas compte, quand vous donnez votre dîme, le bien que vous faites, quand on permet à des œuvres de pouvoir tourner grâce à vos offrandes, ça plaît à Dieu. Est-ce que vous le réalisez? J'espère que vous ne donnez pas votre dîme machinalement, mécaniquement. Non, Seigneur, c'est pour que les gens tiennent bon, pour que des pasteurs soient formés. Il faut qu'il y ait des Épaphras dans l'Église. Il faut qu'il y ait des jeunes, Timothée. Il faut qu'il y ait des Paul, des gens en fin de vie, qui disent « Oui, je combattrai jusqu'au bout ». Pourtant, je pense qu'il y avait quand même des épreuves qui auraient pu dissuader Paul de rendre le tablier, comme on dit. Non. Il a persévéré jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Distrayez-les. Moi, je bénis Dieu pour tout, pour la détente. Est-ce que c'est bien la détente? C'est extraordinaire d'avoir un temps pour tout, franchement. Moi, je bénis Dieu pour la capacité qu'il nous donne d'avoir de l'équilibre. Mais mes frères et sœurs, quand même, si je vous disais, parce que ça, je l'ai entendu, mais pas de ma bouche, hein, mais d'autres bouches. Si je vous disais, mais mes frères et sœurs, j'ai tellement de boulot pour l'Église, j'ai tellement de travail pour l'Assemblée, j'ai pas le temps de préparer mes prédications, j'ai pas le temps de prier. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, monsieur Hugo, écoutez bien, vous devez faire plein de choses qui ne servent à rien. Et vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Oui ou non? C'est ça, travailler avec du foin, du chaume et de la paille. Vous savez, on fait des choses pour Dieu, mais Dieu ne nous les a jamais demandées. Par contre, de prier, c'est quelque chose que Dieu nous demande, parce que ça doit être un bon combat, mes frères et sœurs. Pourquoi on se décourage? Pourquoi on tourne le dos? Parce qu'on n'a pas compris ce qu'était l'Église. L'Église, vous le savez que Dieu n'a donné qu'un nom à l'Église. Qu'un nom, il aurait pu quand même, je pense. Connaissant la façon dont Dieu s'y prend, Dieu aurait pu donner plusieurs noms à l'Église. Il dit non, ma maison sera une maison de prière. Il n'y a qu'un nom. Parce qu'il y a des jours de combat. Il y a des jours difficiles. Il y a des jours faciles. Vous aimez pas, vous savez, en vélo, quand ça descend un peu. Vous avez tous fait du vélo? À peu près? Vous avez tous fait du vélo? Vous avez vu quand ça descend? Le vent dans le dos? Vous savez? Mais à la vélo, vous remarquerez qu'il n'y a pas que des descentes. Il y a des faux plats déjà. En voiture, vous ne les voyez pas, les faux plats. C'est bizarre. Quand vous êtes en voiture, vous ne voyez pas les faux plats. Vous avez l'impression que c'est plat. Et puis un jour, vous passez un vélo, vous vous rendez compte que ça commence à monter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est pareil dans la vie chrétienne. Il y a des moments où ça ne souffle pas dans le dos. Il y a des moments où ça souffle en face. La Bible parle de mauvais jours. Alors si je ne suis pas vigilant dans les jours faciles, sérieusement, comment je vais être lorsque les jours vont être difficiles? Et ça, on devrait prendre cette affaire à cœur. Moi, vraiment, je vous assure, je prie parce que des prédications, je peux en faire des centaines. Et je demande à Dieu qu'il me donne sa pensée pour que l'Église dans laquelle Dieu nous a placés soit une Église qui combatte le bon combat. Quel dommage de ne pas réaliser, écoutez-moi bien, frères et sœurs, retenez que ça de cette prédication. Quel dommage de ne pas réaliser que Dieu nous a donné toutes les armes dont on a besoin. Vous imaginez un instant ? Ce Dieu qu'on a célébré, ce Dieu qui s'avance vers le calvaire. Moi, ce chant, c'est un chant que je chante souvent. Il s'avance. Parce que je me dis quand même, le Dieu du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, qui s'est fait homme, qui marche là, on ne ferait pas ça à un chien. Vous mettriez, vous, un gros morceau de bois sur un chien et le taper dessus ? Vous le feriez ? Non, vous ne le feriez pas. Et là, on a fait ça au Fils de Dieu. Et il a fait ça pourquoi ? Pour pouvoir dire quelques heures après, tout est accompli. Toutes les armes qu'il vous faudra, je pourvoirai. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous imaginez Dieu, notre Père ? Mes frères et sœurs, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous imaginez le Seigneur de l'univers, notre Père céleste, notre Dieu, celui qu'on pourra appeler Père éternel, toute l'éternité. Vous imaginez ce Dieu nous laisser sur la terre complètement démunis, désarmés, à un seul mot, désarmés là comme ça sans armes, pour nous dépatouiller tout seul. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a tout donné, toutes les armes. Et j'aimerais vous laisser quelques versets, et je vous demande ces versets, de les méditer chez vous s'il vous plaît. De les méditer jusqu'à ce qu'ils soient imprégnés. Le premier, on va le lire, on va prendre le temps. Il n'y en a que pour 2 heures, mais je vous assure, on va. Dans le psaume 24, je lisais ce verset ce matin pendant mon culte personnel. Et franchement, j'aime ces psaumes, mais je crois que ça vaut la peine de les cibler un peu plus clairement ce matin. Regardez comment nous est présenté notre Seigneur Jésus. Psaume 24, verset 8. Je vous demande de noter ces versets sur un papier, de les mettre et de les apprendre par cœur. Ça vous gêne que je vous demande d'apprendre des versets par cœur ? Est-ce que ça vous gêne ? Non ? Faites-le, vous ne regretterez pas. Psaume 24, verset 8. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Amen. Vous n'êtes pas seul quand vous combattez. Quand vous combattez, que vous marchez avec Dieu. Et Jonathan a bien fait ce matin de dire que c'est à lui de dire si nous sommes ses amis. Parce que vous savez, on a plein de petits cantiques, même pour les enfants, qui disent « Jésus est mon ami, Jésus est mon ami ». Mais je vous ferai marquer dans la Bible que c'est lui qui dit « Vous êtes mes amis, si ». C'est facile de dire « Je suis l'ami du Seigneur ». Mais je pense que c'est quand même autre chose quand c'est lui qui le dit. L'Éternel, puissant dans les combats. Dans Daniel, on va y aller, Daniel chapitre 7, verset 14, c'est un peu plus loin après les grands prophètes. Daniel 7, 14. Regardez, ça vaut quand même la peine de méditer certains versets pour que nous comprenions bien que ce combat, on n'a pas à tourner le dos. Daniel chapitre 7, verset 14. Regardez bien s'il est beau ce verset. Il y en a, et des versets comme ça, il y en a quelques-uns. Daniel 7, 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Ça vous rassure pas, ça ? Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Matthieu 28, regardez, Jésus va remonter au ciel, il va partir, il va laisser ses enfants, nous, il va nous laisser tout seul, enfin tout seul, le Saint-Esprit est sur la terre quand même. Hein. C'est quand même un gros avantage. Regardez Matthieu 28, et regardez ce qu'il dit. Si ça ne vous encourage pas à combattre lorsque vous n'avez pas envie de prier, moi quand je n'ai pas envie de prier, je lis ces versets que je vais vous citer là, tous ces versets. Parce que je ne suis pas meilleur que vous, croyez-moi, et des fois ça m'arrive de ne pas avoir envie de prier. Matthieu 28, verset 18. Jésus, c'est une des dernières paroles que Jésus a prononcées sur la terre. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça vous convient ? Ça vous rassure ? Est-ce que vous croyez que c'est vrai ? Tout pouvoir ! Jésus a tout pouvoir depuis qu'il est remonté au ciel. Tout pouvoir lui a été donné. On continue, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 2. Regardez si ce verset, il est encourageant. Croyez-moi, faites comme moi, de façon de parler. Quand vous n'avez pas envie de prier, eh bien, lisez ces versets. Vous allez voir comment ça va vous donner des vitamines. Jean chapitre 17, verset 2. On peut lire le verset premier. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Alléluia. Vous pouvez dire alléluia. Vos enfants ne sont pas convertis? Vous avez lu ça? Dieu a pouvoir sur toute chair. Dieu peut toucher vos enfants, quel que soit l'état de ténèbres dans lequel ils se trouvent. Seigneur, tu as pouvoir sur toute chair. Que son nom soit béni. Romains 14. Vous allez me demander une réunion de prière après, j'en suis sûr. Ouais. Romains 14, verset 9. Regardez s'il est beau ce verset. Quand même, franchement. Romains 14, verset 9. On prend le temps, lisez-le, notez-le surtout. Et demain matin, vous lirez ces versets avant de votre culte, avant de prier, vous verrez, vous ne prierez pas pareil. Romains 14, verset 9. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alléluia. Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ça vous rassure pas pour les gens de votre famille qui sont pas encore convertis? 1 Pierre chapitre 3, 22. Regardez ce verset s'il est beau. Dieu a vraiment tout fait pour nous rassurer. Vous croyez pas? 1 Pierre 3, 22. Il est à la droite de Dieu, bien sûr, ce Seigneur Jésus, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Tout lui est soumis, mes frères et sœurs. C'est pour cela que l'ennemi fait tout pour qu'on tourne le dos au combat. L'ennemi, on ne peut pas... Si on perd, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les armes. Si on perd, c'est parce qu'on laisse l'ennemi gagner. Est-ce que vous comprenez? On ne perd pas parce que l'ennemi est puissant. On perd parce que l'ennemi, on le laisse nous empêcher de combattre et de tourner le dos au combat. Vous avez remarqué ce qui s'est passé? Je pensais à ça hier après-midi. Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand les Philistins, avec leur champion Goliath, ont rassemblé les Hébreux dans la vallée de Soco, dans la vallée de Térébenthe? Est-ce que vous vous rappelez ce qui est dit par rapport aux armes des Hébreux? Regardez avec moi, Samuel. Regardez-le bien, s'il vous plaît. Vous savez, des fois, on ne se rend pas compte, les Philistins armés jusqu'aux dents, tous, sans parler de Goliath. Mais regardez, mes frères et sœurs, regardez la stratégie de l'ennemi. Et les Hébreux n'ont rien vu. 1 Samuel, chapitre 13, verset 19. Regardez bien ce texte, mes frères et sœurs. Ça fait quand même réfléchir. C'est pas le seul en plus. C'est pas le seul. J'ai pris celui-là parce qu'il faut que vous vous imaginiez la scène. Une armée de guerriers armés jusqu'aux dents. Et en face, imaginez-vous le peuple de Dieu dans lequel il était avec ce qu'on va lire. 1 Samuel chapitre 13 verset 19. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchant les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache, sa bêche, quand le tranchant des bêches, des oyaux, des tridents et des haches était émoussé et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils, sans commentaire. Est-ce que vous vous rendez compte? Le peuple de Dieu, qui aurait dû être armé, il s'est retrouvé avec des bâtons et des fourches pour combattre le combat. Et heureusement que dans son immense bonté, un adolescent de 17 ans à peu près, était dans la volonté de Dieu. Dieu l'avait préparé parce qu'il était fidèle lorsqu'il se trouvait dans les verts pâturages, etc. Il était fidèle, il cherchait Dieu. Tous les psaumes nous l'indiquent, malgré ces grands combats qu'il a vécus. Ce garçon est arrivé, et heureusement qu'il est arrivé. Car quelques jours après, le peuple d'Israël était dans une catastrophe pas possible. Mes frères et sœurs, nous avons toutes les armes pour combattre, toutes. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. Mes frères et sœurs, nous avons la parole. Si nous gardons la parole, si nous nous nourrissons de la parole, si nous disons, Seigneur, moi je veux combattre pour moi, je veux combattre pour mes enfants, je veux combattre pour l'église de Sainte-Agne, je veux combattre pour l'église qui est au Burundi. Tiens, quand vous écoutez les informations, c'est un merveilleux moyen de transformer les infos en intercession, croyez-moi. Seigneur, je veux te prier. Tiens, je vais le marquer parce que je vais oublier. Est-ce que vous faites partie de ceux qui de temps en temps oubliaient? Oui, eh bien, notez-le. Ayez dans la page de garde. Tiens, je veux prier dans l'église, mais qui c'est qui est malade? Tiens, monsieur Gisquet, j'ai appris cette semaine que Bernard Gisquet avait eu un gros problème cardiaque. Eh bien, je vais noter. Je veux prier pour ce frère. Je veux prier pour l'église de Muret. Je veux prier, tiens, dans 15 jours, il y a les changements. Il faut que je prie pour que vraiment le Saint-Esprit conduise l'affaire des changements. Vous savez, demandez à M. Olé, comment ça s'est passé pour que je vienne à Toulouse. Vous vous rappelez, M. Olé, hein? Demandez-lui à M. Olé comment ça s'est passé s'il n'y a pas eu de grands combats. Hein, M. Olé, vous vous rappelez? Les combats qu'il y a eu, que moi j'ai eu, mais que M. Olé a eu, pour maintes et maintes raisons, ça fait partie du plan de Dieu. Et des attaques de l'ennemi. Et c'est très bien. Mes frères et sœurs, ne tournons pas le dos au combat. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour qu'on lui demande pardon? Pour toutes les fois où le diable nous a amusés, nous qui prions, Seigneur, que ta volonté soit faite, si on avait un petit peu plus de discernement, on serait peut-être parfois obligé de dire, Seigneur, mais je n'ai pas fait la volonté de Dieu. J'en ai honte, mais j'ai fait la volonté de l'ennemi. J'exagère? En plus, ça ne va pas s'arranger. Vous le savez. Est-ce que l'iniquité va se diminuer? Est-ce que l'apostasie va diminuer? Est-ce que la paresse va diminuer? Est-ce que la tiédeur va diminuer? Non, vous savez que ces choses vont empirer. Alors, mes frères et sœurs, est-ce qu'on pourrait demander à Jésus qu'il nous aide et que nous commencions à nous remettre au combat? Peut-être que... Mais je ne prie même pas 5 minutes. Eh bien, commence 5 minutes. Je ne prie même pas 15 minutes par jour. Eh bien... Mais demandez à Dieu, c'est pas à moi de vous le dire. Je peux vous dire, vous n'avez pas pu prier 1 heure, ça je pourrais le dire. Mais mes frères et sœurs, c'est pas à moi de vous dire le temps que vous devez prier. C'est à vous de dire, Seigneur Jésus, quel est le temps que je devrais passer dans ta présence pour combattre le bon combat. Je ne veux pas que mes frères soient dans la défaite parce que je n'aurais pas prié pour eux. Amen. On l'invoque s'il vous plaît. Notre Père... Nous ne voulons pas ressembler à ces enfants d'Éphraïm qui, armés, exerçaient au combat, ayant sur eux toutes les armes nécessaires, ont perdu parce qu'ils ont tourné le dos. Seigneur, tu sais combien nous avons souvent imité ces hommes. Et nous te demandons vraiment, Seigneur, pardon. Nous voulons être de ces hommes, de ces frères, de ces sœurs, de ces personnes âgées ou de ces jeunes. Nous voulons combattre. Le bon combat, pour nous, mais pour les autres. Nous ne voulons pas oublier nos frères et sœurs en Syrie, oui. Nos frères et sœurs au Burundi. Oui, quand tu t'es avancé vers Golgotha, heureusement que tu savais que tout allait être accompli pour que ton peuple soit vaillant, pour que ton peuple soit courageux. Nous te demandons de l'aide, Seigneur, sincèrement, honnêtement, chacun, afin que nous soyons... Ces hommes, ces femmes qui combattront le bon combat et fait que le jour où tu viendras nous prendre ou le jour où tu viendras nous chercher individuellement, qu'importe Seigneur, nous puissions dire comme Paul que nous avons achevé la course en combattant ce beau combat. Que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Amen.